Bonjour à tous. Avant de commencer le message, je vous invite à prier ensemble. Merci Seigneur que tu es le rocher, ta parole est la vérité. Aide-nous de vraiment entrer dans ta parole pour trouver le vrai chemin. Et aussi vivre dans ta parole et avec pour avoir le sens de la vie. Et Seigneur, tu sais que nous sommes, ce sont les pécheurs. Nous avons, nous sommes très faibles. Et malgré tout cela, ton amour qui nous fortifiait tous les jours. Et je te confie ce temps entier à toi, et soit avec nous, soit celui qui prêche, celui qui l'écoute, et nous pouvons vraiment voir ta parole, ta puissance sur ta parole qui peut éclairer tous les obstacles dans notre vie. Voilà, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'ai remarqué cet après-midi, nous sommes très peu des membres, mais pour moi c'est quelque chose bien parce que comme ça au moins je me sens à l'aise, pas stressé, pas si stressé. Donc on profite ce temps-là aussi. Pour éclairer ce texte-là, comme Clément il disait que c'est pas évident de parler ce texte-là. Hein. Dans le cinquième, on va rappeler tout ce que un peu que j'étais déjà parlé dans le cinquième chapitre. J'ai partagé le nom de Daniel, cela signifie que Dieu est mon juge. Il est évident que Dieu nous jugera toutes les choses que nous faisons. Dans cette époque, les Israélites sont divisés en pays du nord et du sud après le roi Salomon. 19 d'entre eux ne craignent pas Dieu. Il y a aussi 19 empereurs dans le sud, mais il n'y a que 7 bons rois. Après l'attaque de l'Assyrie par le nord d'Israël, Dieu laissa s'étendre le Juda du sud 100 ans avant que les Babyloniennes ne prennent les Israélites. Comme vous savons que Daniel signifie, tout à l'heure je disais que Daniel est mon juge. Ses trois compagnons, Anania, qui signifie l'Éternel, fait grâce à leur peuple, malgré différents problèmes dans le pays de Israélite. Miskaël, qui est égal à Dieu. Azaria, le Seigneur aide. Le roi de Babylone change le nom de Daniel à Pessassa, Anania à Satras, Miskaël à Messat, Azaria à Abel-Nego. Ça veut dire que Pessassa qui protège sa vie, qui utilise sa force pour protéger sa vie. Ça égale le splendeur. Ça traite, il signifie le royal, le grand scribe. Mais ça invité du roi. Abel-Nego, serviteur de Nego. Dans les noms donnés à Daniel et à Azaria se retrouvent les noms de deux divinités babylonienne, Bel, Nebo, Merodat. Ce changement de nom destiné à naturaliser Daniel et ses compagnons en pays païen. Le palais du roi fournit de la bonne nourriture dans le palais, en espérant assimiler ces jeunes talents, talentueux, quand vous grandirez. Vous oublierez qui vous êtes et vous deviendrez un babylonien. Quand je pense à moi au Vietnam, j'ai le mien, le nom chinois, a aussi un nom vietnamien. Il y a un nom anglais à Taïwan et ensuite un nom français en France. Finalement, je ne sais plus qui je suis. Voilà la méthode de Babylone, c'est se servir de cette manière-là pour vraiment que changer d'identité de tous ses compagnons, tous ces jeunes talentueux. Moi-même, j'ai trois dates de naissance aussi. Le 28 mars et le 8 mai et le 7 août. À cause de la guerre. Mais malgré ce changement de nom, Daniel garde toujours son identité. Dans le premier chapitre 1-8, Daniel décida de ne pas prendre le repas fourni par le roi. Daniel, ce livre est divisé en deux parties. La première partie se situe entre le premier et le sixième chapitre, qui traite de l'environnement de Daniel et des trois autres personnes de l'Empire babylonien et de l'Empire perse. Ensuite, non seulement suivi, mais a également une très bonne performance. La raison principale, c'est qu'ils ont l'Esprit de Dieu. De sorte que lorsqu'ils sont confrontés à la menace de la vie, ils n'ont pas peur. En particulier, Daniel, il comprendra les rêves du roi et la vision de la présence d'Esprit de Dieu. Faites de lui la personne la plus intelligente du pays. La deuxième partie est du 7e au 12e chapitre. Toutes ces visions que Daniel a vues personnellement, elles sont incluses dans la catégorie littérature de révélation. Dans les catégories littérature de révélation. Une chose qui est différente dans cette partie est que les six premiers chapitres disent que Daniel avait une sagesse intelligente pour résoudre les rêves. Et même les rêves que Nebuchadnezzar, le roi babylonien, avait oubliés. Il pouvait être récupéré pour le roi et aider le roi à comprendre clairement les rêves qu'il a faits ou la signification des visions qu'il voit. Cependant, au chapitre 7, Daniel voit la vision, mais il ne peut pas comprendre la signification. Et il a eu peur et il a besoin des anges d'expliquer toutes ces choses. Lisons maintenant le chapitre 7, qui est le chapitre le plus central du livre de Daniel, car ce chapitre peut simplement faire un lien entre la partie avant et la partie après. Surtout dans le 7e chapitre, cela ressemble ressemble à une rencontre familière dans le deuxième chapitre. Nous avons lu le rêve que Nebuchadnezzar avait oublié et a été retrouvé par Daniel, qu'il y avait 4 empires. Dans le 7e chapitre, on parle aussi qu'il y a 4 empires, mais les empires plus puissants. La Bible nous donne une compréhension importante. Les rêves ou les visions sont un moyen de révélation de Dieu à l'homme. Par exemple, nous voyons souvent la signification des rêves dans la Genèse. Chapitre 37, le rêve de Joseph. Chapitre 41 à 42, les rêves des responsables égyptiens et du roi. Autre exemple, le 2e chapitre des Actes, la vision de l'officier militaire romain Corneille et le disciple Pierre, acte 16, 9. L'apôtre Paul a vu la vision de la nuit et lui a demandé de se rendre en Macédoine pour développer le ministère de l'Évangile dans cette région ainsi de suite. Dieu veut nous montrer sa volonté à travers le rêve ou la vision. Pour comprendre la volonté de Dieu. Mais il faut avoir la présence du Saint-Esprit de Dieu, pas la capacité des humaines. Et nous allons voir ensemble ce chapitre 7, dans le verset 1. La première année de Ben-Sassa, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. L'Esprit de Dieu ne nous y présente pas simplement l'histoire ou les visions de personnages païens, Nebuchadnezzar et l'autre, mais les communications faites au prophète lui-même de la part de Dieu. De là vient que le sujet prédominant des pensées de l'Esprit est ce qui est relatif aux Juifs. Objet de la faveur spéciale de Dieu à cette époque-là, et plus particulièrement ce que Dieu tient en réserve pour eux pour le jour de la bénédiction qui est bien proche. Daniel était le canal approprié pour de telles révélations. En conséquence, l'Esprit reprend le sujet des 4 grands empires gentils. Aussi bien que celui du 5e empire, le royaume des cieux, qui doit être introduit par le Seigneur Jésus-Christ. Mais les choses sont présentées ici d'un point de vue différent, quoiqu'en parfaite harmonie avec ce qui procède. Ici, ce n'est point une grande statue, commençant par ce qui est splendide, l'or et l'argent, et descendant par une détérioration manifeste et progressive au ventre et aux cuisses des reines, puis aux jambes et aux pierres d'argile. Ici, nous avons des bêtes sauvages féroces. Elles représentent bien les mêmes puissances, mais sous un autre angle. La statue convenait fort bien que pour une présentation faite aux grands chefs de l'Empire gentil, de leurs mutations et relations respectives. Mais maintenant, voici le point de vue de Dieu sur ces mêmes puissances ainsi que leurs relations avec son peuple. Verset 3, dans sa vision, le prophète voit une masse d'eau agitée par les vents des cieux. De cette mer troublée sortent quatre bêtes sauvages, successivement, car il est évident qu'il en est des empires présentés ici, comme de se figurer par les métaux du chapitre 2. Ils ne sont pas contemporains, mais ils se succèdent l'un à l'autre pour gouverner le monde, selon la providence de Dieu. La première était comme un lion et elle avait des ailes d'aigle. Sans aucun doute, nous savons là l'empire de Babylone. Ce n'est pas non plus nouveau de voir le Saint-Esprit appliquer à Nebuchadnezzar la figure d'un lion ou celle d'un aigle. Jérémie l'avait déjà fait, le lion est monté de son forêt et le destructeur des nations s'est mis en chemin. Jérémie 4, 7. Ézéchiel, comme Jérémie, l'a aussi présenté sous la figure d'un aigle. En Jérémie 49, 19, verset 19, 22. Il est même mentionné à la fois sous l'image du lion et de l'aigle. Dans la vision de Daniel, le Saint-Esprit réunit les deux figures dans un même symbole pour représenter d'une manière appropriée ce que l'empire babylonien était dans la pensée de Dieu. Mais tout était couvert aux yeux de Dieu et son intention en donnant la prophétie, et que son peuple voit à l'avance ce qu'il voit lui-même. Dans la parfaite sagesse et la parfaite bonté de sa nature, Dieu a trouvé bon d'accorder une mesure de connaissance de l'avenir selon qui juge convenable à sa gloire. Et un enfant obéissant écoute et garde la parole de son père. Puis il fait connaître au prophète l'humiliation qui devait atteindre l'empire de Babylone. Il n'allait pas être entièrement détruit comme nation, mais sous peu, il allait perdre sa position de puissance dirigeant dans le monde. C'est le sens des ailes arrachées à la bête, laquelle se tresse ensuite sur ses pieds comme un homme, ce qui lui ôte sa force. Bien sûr, si une telle attitude est parfaitement adaptée pour l'homme, il est évident que pour une bête féroce, c'est plutôt une humiliation. En harmonie avec cela, nous lisons aussi qu'un cœur d'homme lui fut donné. C'est une sorte de contraste avec ce qui arrive à Nebuchadnezzar, à qui fut donné un cœur de bête. Ce roi orgueilleux ne regardait pas vers Dieu, ce qui est évidemment le devoir sacré de tout âme d'homme. Celui qui ne reconnaît pas que Dieu lui a donné l'existence, veille sur lui et le comble de bienfaits chaque jour. Celui-là n'est pas proprement un homme. Dieu réclame l'obéissance de la conscience. Dieu réclame l'obéissance de la conscience. Et cela seul peut opérer la conversion du cœur. Nebuchadnezzar nous montre l'homme occupé de lui-même. L'homme occupé de lui-même. Le don même que Dieu lui avait fait de la domination universelle avait été perverti par la puissance de Satan. Au point que c'était son moi qui était le centre de ses pensées. C'était son moi qui était le centre de ses pensées, non pas Dieu. Selon l'expression vigoureuse de l'Écriture, son cœur n'était pas un cœur d'homme. Regardant en haut et reconnaissant un être au-dessus de lui. Mais c'était un cœur de bête, regardant en bas, et ne cherchant que son plaisir de la satisfaction de ses instincts. Tel était le cas de Nebuchadnezzar. Et c'est pourquoi il fut l'objet personnel d'un jugement très solennel. Mais la miséricorde de Dieu intervint après un certain temps d'humiliation et il fut restauré comme roi. Dans le cas de notre chapitre, le lion tomba dans un état de faiblesse après avoir eu la puissance comme bête. Cela eut lieu effectivement quand Babylone perdit sa suprématie dans le monde, ce qui semble bien être le sens de la dernière partie du verset. Nous avons donc d'abord Babylone dans la plénitude de sa puissance et ensuite le grand changement opéré à son écart lorsqu'elle fut dépouillée de l'empire du monde. Au verset de 5, suivant verset 5, vous trouvez une description de l'empire des Perses qui avait été représenté dans la grande statue par la poitrine et les bras d'argent. Et voici une seconde bête semblable à un ours, et elle se tressait sur un côté. L'Écriture nous fournit donc ici ce fait manifeste que, tandis que le second empire se composait de deux parties, et que les Mèdes formaient le branche la plus ancien de l'empire. C'est néanmoins Cyrus, le Perse, qui l'allait prénominer. C'était là le côté sur lequel la bête se tenait. Elle avait trois côtes dans sa gueule, entre ses dents. Signe bien clair de la réparticité extraordinaire qui a caractérisé l'empire perse. Si nous voyons que devant nous différents animaux selon un panorama et que l'un d'eux soit représenté en train de dévorer beaucoup de proies, n'aurions-nous pas tout de suite à l'esprit l'idée d'un appétit singulièrement vorace? Tel était de Perse qui eut maintes fois à tenir tête à des soulèvements causés par leur extorsion et leur cruauté. Il est vrai que par leurs moyens, la providence de Dieu opéra en faveur des Juifs, mais cela ne faisait qu'un constat d'autant plus marqué avec leur habitude ordinaire. tandis que les Perses étaient extrêmement durs envers les autres peuples. Ils se montaient doux et favorables à l'égard d'Israël. Mais ce n'est qu'une exception. Ce n'est qu'une exception pour qu'ils puissent, comme l'époque de Esdras et Néhémie, il peut retrouver son pays momentanément. En général, leur vrai caractère était bien dépeint par l'image d'une bête féroce et avide. C'est ce qu'on l'a avec l'ours ayant trois côtes dans sa gueule, entre les dents. Une illustration directe de ces pensants, voraces. Et on lui dit ainsi, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Ces paroles expliquent la vision et sont une allusion évidente à leur habitude biate. En troisième lieu, vient un léopard avec quelques traits remarquables qui avait quatre ailes d'oiseau sur son dos. Si jamais il y a eu un cas où l'impétuosité du courage dans la poursuite de grands desseins était unie à la rapidité d'exécution de conquêtes en série. C'est à coup sûr dans l'histoire d'Alexandre le Grand qu'on le trouve. Le royaume grec ou macédonien porte un caractère de rapidité qu'aucun autre n'a jamais eu. C'est pour cette raison il est symbolisé d'un côté par le néopathe et de l'autre par les quatre ailes d'oiseau. Mais de plus, la bête avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Ce trait ne nous montre pas simplement Alexandre, mais aussi ses successeurs. Les quatre têtes signalent la division de son royaume en quatre parties après sa mort. Nous avons donc ici des symboles de l'Empire grec, non seulement dans son état d'origine, mais aussi dans ses états ultérieurs. Avec le verset suivant, verset 7, commence une autre vision, car les six premiers versets constituent une même section ou vision. Les deux sont introduits par les mêmes mots. Je vis dans les visions de la nuit. Daniel contemple d'abord les quatre bêtes d'une manière générale. Et si quelques détails sont donnés, c'est sur les trois premiers, mais la quatrième est évidemment celle qui occupait d'une façon plus particulière la pensée du Saint-Esprit. Et en conséquence, le prophète y revient. Après cela, je vis dans les visions dans la nuit, et voici une quatrième bête, effrayante et terrible, et extraordinairement puissante, et elle avait de grandes dents de fer. Ici, évidemment, la prophétie nous donne une figure du quatrième empire ou empire romain. La quatrième bête représente donc ouvertement l'empire romain, ce qui le caractérise sous le rapport politique. C'est une force à laquelle rien ne résiste. Il est figuré par un monstre sans pareil dans la nature. L'Apocalypse nous le décrit plus complètement parce que l'Empire romain étant établi alors et sa destinée future menant jusqu'à la fin du temps. Il devait l'objet exclusif de l'attention. C'était véritable la bête. C'est pourquoi le chapitre 13 nous en fournit une description et nous l'y trouvons représenté comme un léopard, ses pieds comme ceux d'un loup et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et cette créature composite se distingue encore verset 1. Par le fait qu'elle a sept têtes et dix cornes, et sur ces cornes, dix diadèmes, c'était la puissance sous laquelle, en ce même temps, Jean souffrait dans l'île de Pamos, et comme le plus grande souffrance était en réserve pour le peuple de Dieu, ainsi que des blasphèmes contre Dieu. Le verset que nous avons sous les yeux montre qu'un jugement divin et destructif devait atteindre cette petite cône et la bête. Ce jugement sera même en contrast avec celui des autres bêtes. Je vis jusqu'à ce que la bête fut tuée et son corps fut détruit et elle fut livrée pour être brûlée au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut ôtée, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une saison et un temps. Autrement dit, il existe encore maintenant des restes des sadènes ou des races ainsi appelées. La Perse est restée un royaume et ces dernières années, les Grecs en ont aussi constitué un. Ces pays existent donc, mais non pas dans la forme de puissance impériale. Ce sont des ethnies qui représentent plus ou moins ces anciens empires. Mais leur étendue est moindre et ils n'ont plus la domination qu'avaient ces empires tel que le sens du verset 12, ensuite verset 13 et 14. La domination leur a été ôtée comme gouverneur du monde, mais une prolongation de vie leur fut donnée jusqu'à une saison et un temps. Voilà maintenant une nouvelle vision de verset 13, verset 4, 14. On constate avec les puissances représentées par les bêtes féroces. C'est un personnage comme un fils d'homme. Cela rappelle la pierre d'apparence insignifiante du chapitre 2, qui frappa la grande statue et la réduisit en pièces, de la tête aux pieds. Ici, le Fils de l'homme vint avec les nuées des cieux et il avança jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. L'ancien des jours représente Dieu comme tel, celui qui est haut, élevé et exalté, qui habite l'éternité, comme dans le Ésaïe 57, verset 15. Dans l'Apocalypse, c'est de gloire, le Fils d'homme est l'ancien des jours. Le Fils d'homme est l'ancien des jours. Sont unis en un dans la personne de Christ. Le chapitre 1, Apocalypse, nous montre quelqu'un comme le Fils de l'homme, mais lorsque nous arrivons à la description de sa présence, quelqu'un de ses traits sont exactement les mêmes que c'est attribué ici à l'ancien des jours. Donc, il est dit que son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine blanche, etc. Le prophète juif voit Christ simplement comme homme. Le prophète chrétien le voit comme homme, mais aussi comme Dieu. Le prophète chrétien le voit comme homme, mais aussi comme Dieu. On lui donna la domination et l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langages se mirent à le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Le royaume ne lui sera point ôté et un autre royaume ne succédera point au sien. Ce sera un royaume éternel au sens qui durera autant que le monde, car au sens strict, il ne s'agit pas d'une scène éternelle. Les prophètes juifs montrent le millénium, mais ils ne révèlent pas comme le Nouveau Testament. Ils ne révèlent pas comme le Nouveau Testament. Ce qui sera lorsque toutes choses auront été ajustées à Dieu, au Père lui-même, quand Dieu sera tout dans tous. Ceci était tenu en réserve pour un autre temps, et Apocalypse, et assure le suivi de la manière la plus bénie au chapitre 21, versets 1 au 8. À l'époque, le plan de, il nous montre le panorama de l'époque de tous ces pays qui nous sommes en train de parler. Nous pouvons faire un peu de conclusion. Il y a pas mal de choses, on peut parler encore, mais je suis limité par le temps. On peut faire la conclusion. Dieu utilise le métal pour symboliser le cœur humain et dur. Dieu utilise le métal pour symboliser le cœur humain et dur. Chapitre 2. Dieu aussi utilise les animaux pour symboliser le monde et féroce. Chapitre 7. Afin nous montre la différence que celui du royaume du Fils de l'homme qui peut durer éternellement. Nous revenons sur l'histoire de l'humanité. Nous avons vu des dirigeants vu les dirigeants de Lénine en ex-Union soviétique ou de Mao Zedong en Chine ou d'Hitler en Allemagne qui présentent tout ce que ce sont les dirigeants très puissants. Maintenant, je vous montre un autre dirigeant. Je vous pose la question, qui est-ce? Aujourd'hui, ils n'existent plus. Ainsi, bientôt, notre aimé président américain, Trump, il ne sera plus là. Mais nous voyons comment Dieu s'occupait de son peuple, ses enfants, l'Église actuelle. Il sauvera son peuple de la souffrance et lui donnera une vie sûre et heureuse. À cette époque, de nombreuses personnes tournaient le dos aux croyances. Et seuls les fidèles restent fermes sur leur foi. Bien qu'ils soient persécutés dans la souffrance, leur performance loyale finira par l'emporter. Ils sont le vrai Israël. Ils sont le vrai chrétien. Ils sont le vrai l'enfant de Dieu. Décrits comme des saints du Très-Haut, par conséquent, ces personnes fidèles obtiendront la gloire et la paix dans le royaume de Dieu. Mon message termine là. Mon message termine là. Le reste, je vous laisse de réfléchir. Et nous pouvons mettre en pratique en passant les questions suivantes. Première question, après ce message, qu'est-ce qu'on doit faire face à la situation en France? Qu'est-ce qu'on doit faire face à la situation en France? En tant qu'un chrétien, en tant qu'un citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on peut le faire? Quel est notre rôle dans la société actuelle? Tout à l'heure, quand j'écoute le partage d'une sœur, et je suis dans la tristesse, tristesse, oui. Comment la France qui peut arriver ça, de accepter des choses qu'on ne devait pas accepter comme Dieu qui l'a déjà recommandé. Quel est notre rôle dans la société actuelle? Qu'est-ce qu'on peut changer notre société? Quelles sont les choses les plus importantes pour un chrétien? Quel est l'essentiel, la priorité pour un chrétien? Daniel, il a fait un choix. Quel est le vôtre? Pourquoi il peut faire ce soir-là? Quel est le vôtre? Quel est le nôtre? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas faire ce soir? Prie pour toi. Prie pour toi. Prie au Seigneur. Enlevez ce empêchement pour qu'on vraiment se libère et pour qu'on puisse vraiment servir un servi Seigneur avec un cœur sincère. Nous ne devons pas oublier le témoignage de Daniel. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel 1, verset 8. Je pense aujourd'hui, notre solution, c'est que il faut prier pour notre autorité. Deuxième chose, il faut vraiment partager notre croyance envers les amis, nos amis, pour qu'ils puissent changer leur attitude. Ce que Daniel qu'il a fait face à l'autorité, le roi Nebuchadnezzar, face le serviteur, le chef, de lui permettre de ne pas obliger se souiller. Je pense, on a besoin, c'est des portes, on a besoin de quelqu'un comme Daniel, qui peut témoigner à cette manière-là pour sauver le peuple d'Israël, aussi aujourd'hui notre société, le pays, la France. Prie pour cela. Prions ensemble. Merci Seigneur que nous sommes avec un cœur d'humiliation devant toi. C'est vrai que nous sommes faibles, mais le Saint-Esprit qui peut nous aider de vraiment transformer notre vie pour avoir la force, la sagesse pour vraiment témoigner ton nom parmi les non-chrétiens. Il faut que, Seigneur, ta parole qui domine ce pays et change ce pays. Change tout autour de nous pour vraiment que les gens qui comprennent qu'il n'y a que Seigneur, tu es le roi, le Messie. Merci, Seigneur. Je prie en ton nom, Jésus-Christ. Amen.